Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
11 célibataires coupés du monde.
Philippe.
Laure.
Aziz.
Loana.
Jean-Edouard.
Philippe. Jusqu'à 22h.
Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24h sur 24, par 26 caméras et 50 micros.
RTL.
Dans 9 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est vous qui décidez.
Depuis l'apparition de Love Stories, que vous entendez, date d'avril 2001, la télé-réalité a envahi nos écrans, tous nos écrans. On vous raconte l'histoire de ce nouveau genre d'émission et de son impact sur nos sociétés avec le journaliste Florian Anselme. Bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Bienvenue. L'homme qui a inventé la télé-réalité, c'est un Néerlandais, il s'appelle John de Mol. Comment il en a eu l'idée?
Tout simplement en regardant Biosphère en fait, et en regardant cette espèce de politique d'enfermement.
C'est quoi Biosphère? C'est une émission?
Tout à fait. Oui. C'est un roman de George Orwell, mm-hmm. qui parle d'un enfermement, de gens enfermés. Lui, il a eu envie de s'en inspirer pour créer une télé-réalité en fait, tout simplement.
Oui. Alors en fait, Biosphère, si je me souviens bien, c'était un programme scientifique,
oui. Pour
voir comment des hommes pouvaient vivre en autarcie dans une espèce de bulle en prévision de voyage dans l'espace.
Tout à fait.
Et donc ça, c'est ça, Biosphère ou Biosphère 2. Et là, vous faites référence au roman de George Orwell, j'imagine, oui. C'est 1984, c'est ça?
Tout à fait.
Et dans 1984, il y a un personnage, une sorte de personnage qui s'appelle Big Brother.
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait Big Brother dans 1984? Il nous surveille, c'est ça, en permanence?
Exactement.
Ouais,
exactement.
C'est ça. Il y a une espèce de deuil dans les appartements qui peut surveiller les habitants de ces appartements. Et Big Brother, c'est devenu le nom de la première émission créée par John de Mol, c'est ça?
Exactement, qui a été diffusée sur Veronica, une chaîne du câble hollandaise. Parce qu'au départ, personne n'en voulait. Il a eu beaucoup de mal à vendre son concept, son programme.
Ça faisait polémique, c'est ça, déjà, ou...
Ça faisait polémique, mais surtout les gens comprenaient pas. En fait, c'était pour eux, c'était abstrait, c'était quelque chose qui n'existait pas. Il est arrivé avec son concept, il a été pris un petit peu pour un extraterrestre, c'est le cas de le dire. Et il s'est battu et aujourd'hui il est considéré comme un génie de la télévision qui a vendu sa société pour 5 milliards d'euros avant de la racheter pour à peine 3 milliards dans la foulée. Enfin bref, c'est quelqu'un...
Ce premier Big Brother, il a marché sur la chaîne Véronica?
Au début, non, ça a été un petit peu compliqué et progressivement les audiences ont été au rendez-vous et ce qui a inspiré les producteurs pour le décliner de façon un petit peu plus... à plus grande échelle. Voilà.
Je crois qu'il se crée en 1999 ce programme aux Pays-Bas. Il met 2 ans finalement à arriver en France.
2 ans. Oui.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi? Parce qu'il y avait un espèce de pacte en fait entre les dirigeants de chaîne qui s'interdisaient mutuellement de rentrer dans ce jeu de la télé poubelle comme ils l'a baptisé à l'époque. Mmh. Et voilà. Donc bon, ils ont mis beaucoup de temps à y aller. Ils savaient qu'il y avait beaucoup d'argent à la clé, une audience évidente. Et les premiers à avoir franchi le pas, c'est M6, au grand dam de Patrick Lelay, dirigeant de TF1 à l'époque.
Parce qu'ils avaient passé un pacte, c'est ça, tous les deux? Enfin, tous les deux, en
un
tout cas,
pacte
tous
moral,
les chaînes,
en tout ouais. cas, il n'y avait rien d'écrit, mais ils étaient l'un et l'autre. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils voulaient, l'un et l'autre voulaient se doubler le moment venu, et le premier qui a doublé l'autre, c'est Nicolas Taverneau qui a doublé.
Et c'est donc
Patrick
M6.
Voilà, exactement.
Et c'est donc M6 qui crée Love Story, c'est la version française du Big Brother. Nous sommes le 26 avril 2001 et c'est tout de suite un événement qui fait polémique.
Bah, tout de suite, en fait, la presse, les médias en général, les intellectuels, les bien-pensants, tout le monde, quasiment tout le monde, à part quelques curieux, considère cette arrivée comme quelque chose de dramatique pour la télévision et peut-être même pour le genre humain en général, quoi. C'est quelque chose qui a choqué.
Raison, hein.
Moi-même, j'avais 20 ans à l'époque. Je connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui, mais j'étais très choqué. Je trouvais que c'était n'importe quoi. Faire du néant quelque chose, tout simplement, ça me paraissait absurde.
Oui, mais tout le monde était devant ce néant, finalement, parce que ça fait des audiences incroyables.
Ça a fait des audiences, oui. C'était 8,2 millions de téléspectateurs, je crois. Donc, c'est des scores qui sont absolument incroyables. Mais voilà, le principe qui consiste à manipuler des anonymes comme des rats en cage pour faire de l'audience, donc pour faire de l'argent, c'est quelque chose qui ne passait pas à l'époque et encore aujourd'hui qui fait débat tous les jours.
Florian Anselme, vous publiez La télé-réalité au confessionnal aux éditions du Moment. Dans ce livre, vous rappelez la tribune que publie à l'époque du Loft Patrick Lelay, c'était dans le journal Le Monde. Et donc, on replace le contexte. Hein. Vous venez de nous dire qu'il y avait eu une espèce de pacte moral signé entre TF1 et M6. M6 rompt ce pacte, crée Love Story, ça cartonne en audience. qu'écrit Patrick Lelay dans Le Monde. Vous pouvez nous en lire un extrait ?
Alors oui, avec plaisir. Il écrit donc, comme deux Français sur trois à TF1, nous répondons non. Une grande chaîne gratuite disponible en clair pour l'ensemble des Français, y compris les plus jeunes d'entre eux, a des règles éthiques et déontologiques à observer. Quant à moi, je maintiendrai le cap fixé par Francis Bouygues en 1987, faire que TF1 reste la chaîne préférée des Français, s'adressant à tous dans le respect de leurs convictions, de leurs croyances et de leur dignité.
Ce cap, il a gardé combien de temps, Patrick Lelay, finalement ?
Oh, bah, quelques mois, parce que très très vite, il a créé Nice People, il a créé la Star Academy, Koh-Lanta,
En fait, il a signé un accord avec la société qui produisait Love Story. C'est
tout
ça,
à
il
fait,
a piqué cette,
ce,
cette, cette société à M6 et il a fait un très très gros chèque, ça s'appelle Endemol, cette société.
Exactement. Oui.
Pour avoir tout leur programme de télé-réalité en premier choix.
Exactement.
Florian Anselme, ce premier Loft dont on parle, Loft Story, est un succès. Pourtant, si on regarde le casting, les candidats, ils étaient quand même beaucoup plus soft que les candidats des émissions de télé-réalité aujourd'hui. Vous nous rappelez qui participait à ce premier Loft ?
Oh, il y avait Kenza, qui était une immigrée irakienne assez gentille, un peu fofolle. Il y avait Laure, une espèce de bobo un petit peu bourgeoise. Il y avait Aziz, qui était un petit peu le mec du quartier, la caution un peu diversité de l'émission. Il y avait bien sûr Loana, Jean-Édouard, voilà, des prénoms que personne n'a oublié. Enfin, en tout cas, pour ceux qui regardaient Loft Story à l'époque.
Moi, j'ai oublié qui a gagné. En revanche, c'était Loana et je sais plus. C'était un couple qui a
Christophe.
Gagné.
Christophe, tout à fait Christophe, qui était en couple avec Delphine d'ailleurs, qu'il a rencontré sur place, et avec qui il est toujours aujourd'hui.
Ils ont gagné quoi ?
Ils ont gagné une maison à Saint-Tropez.
Se sont empressés de revendre.
Qui se sont empressés de revendre
évidemment.
Et de partager. Voilà.
Loana qui est devenue star avec cette émission en quelques minutes grâce à un jacuzzi, aujourd'hui le symbole d'une télé-réalité qui broie parfois ses candidats.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Marseillaise des mariés, j'ai trouvé l'idée excellente. Après, j'ai pas forcément compris pourquoi une Marseillaise, parce que c'est pas leur région.
RTL.
Et peut-être qu'il y avait un Marseillais dans la salle qui l'a pas dit. Je crois que c'est que les Marseillais qui chantaient la Marseillaise.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Qu'est-ce que t'as, toi ?
Je suis grave énervée.
Bon alors, c'est une belle perle hein, des candidats mal, des anges de la télé-réalité. On va revenir sur ces perles dans quelques instants. On vous raconte l'histoire de la télé-réalité créée il y a 15 ans aux Pays-Bas et dont la première star s'appelle Loana. On en parle avec le journaliste Florian Anselme. Loana, elle va comment aujourd'hui ?
Elle va mieux, mais c'est quand même quelqu'un qui sort de plusieurs tentatives de suicide, d'agressions diverses et variées, qui est en surpoids, c'est plus du tout la bimbo qu'on a connue il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, enfin voilà, c'est plus ça.
La bimbo qu'on a connue et qui a connu la célébrité en quelques minutes, j'allais dire au fond d'une piscine, non. C'était un petit jacuzzi. Elle était avec Jean-Édouard, avec lequel elle a fait l'amour en direct, c'est ça ? Est-ce qu'il savait qu'ils étaient en direct, ces candidats ?
Non, ils ne le savaient pas vraiment. Je pense que les versions divergent. Des fois, ils disent qu'ils le savaient, des fois, ils disent qu'ils ne le savaient pas. Je pense que c'est tout simplement deux jeunes gens qui n'avaient pas l'habitude de ce cinéma-là, de ce schéma-là, et qui se plaisaient, qui se sont sautés dessus. Je pense que l'histoire est aussi simple que ça, et que le système dans lequel ils étaient en a profité. Voilà.
La production était ravie, j'imagine, de ces images, ou alors elle aurait souhaité, vous pensez, après coup, pouvoir empêcher leur diffusion ?
Elle a longtemps dit qu'elle aurait aimé empêcher leur diffusion, mais non, je pense que tout simplement, le buzz était trop tentant, donc ils ont sauté dessus, tout simplement.
Alexia Laroche-Joubert, qui était l'une des productrices à l'époque, dit que si elle avait pu empêcher la diffusion en appuyant sur un bouton, elle l'aurait fait, que c'était trop tard, que c'était parti. Pour Loana, la première humiliation, elle vient vite. Florian Anselme, quelques heures après, le lendemain, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe avec Jean-Édouard ? L'histoire d'amour ne dure pas très longtemps, quoi, c'est ça ?
Non, il la quitte, et puis il la quitte de façon un petit peu cavalière, quoi, voilà, comme un garçon de cet âge-là qui s'amuse un petit peu avec les filles, qui ne recherche pas l'amour et qui a envie de s'amuser tout simplement. Elle, Loana, contrairement aux apparences, c'est plutôt un cœur d'artichaut. Elle s'est tout de suite attachée à lui. Ce n'était pas une fille qui couchait avec n'importe qui. Donc elle avait vraiment envie d'être avec lui, pas lui. Donc elle en a énormément souffert tout de suite. Et aux yeux de toute la France.
Et voilà, aux yeux de toute la France, avec des millions de personnes qui regardent.
Ouais.
Donc c'est forcément beaucoup plus violent. Ensuite, pardon, Sidonie, sa vie, elle va s'étaler à la une des journaux People. Tout le monde va quoi ? Chercher à enquêter sur elle, tout savoir de sa vie, c'est ça ?
Oui, parce que elle devient une immense star, peut-être encore plus à l'époque que Nabila ne l'est aujourd'hui. Donc la presse People fait son travail, tout simplement. À l'époque, c'est le journal France Dimanche, par l'intermédiaire de la journaliste Caroline Berger, qui avait sorti un scoop retentissant à l'époque, à savoir qu'elle avait une fille cachée. Et c'est ça qui a déclenché énormément de choses dans sa vie à elle. Ça a été un petit peu le premier scoop sur une star qui n'en est pas une, en fait. Et effectivement, voilà, ça a été le début d'une longue histoire médiatique entre Loana et...
Ouais, mais ce qui est dur, comme vous le disiez, ces candidats, ils sont pas encore conscients de ce qu'est la télé-réalité, de ce qu'elle signifie pour leur exposition. Et malgré tout, la presse People, elle fait comme si c'était des stars averties et elle creuse dans leur vie comme pour n'importe quelle personnalité connue. Donc la presse People, elle a participé aussi, puisque c'est l'un des thèmes de votre livre, comment la télé-réalité a fait du mal à certains des candidats. La presse People, elle a participé à ce système.
Oui, mais parce que les audiences sont au rendez-vous. Donc si les audiences sont au rendez-vous, c'est que ces gens deviennent célèbres. En peu de temps, certes, mais ils deviennent célèbres quand même. Donc la presse People, les gens célèbres, elle en parle. Voilà. Donc oui, effectivement, la presse People leur a fait du mal, mais pas forcément plus qu'à d'autres. Je pense que certains en ont joué. C'est plutôt l'après qui a été terrible. Mais je pense pas que c'est la presse qui en est responsable. C'est plutôt les producteurs et les psychologues et ceux qui géraient ces émissions qui n'ont peut-être pas accompagné les candidats comme il l'aurait fait.
Et on n'a pas tiré de leçon parce que 15 ans après, une autre star de télé-réalité que l'on retrouve dans la rubrique des faits divers, c'est Nabila qui est accusée d'avoir poignardé son compagnon, Florian Anselm. Elle en est où dans ses déboires judiciaires ?
Alors, après la fameuse nuit du 6 au 7 novembre 2014, une information judiciaire avait été ouverte, elle a été mise en examen, et on sait depuis quelques mois maintenant qu'elle sera jugée par le tribunal correctionnel de Nanterre pour violence volontaire aggravée. Voilà, après son altercation avec Thomas Vergara.
Et Nabila, on la découvre dans quel programme ? Parce que moi, je me souviens plus.
Je précise, elle devrait comparaître en 2016, voilà.
D'accord. Par rapport à On la découvre comment, Nabila, sur nos écrans ?
Alors, d'abord, de façon un petit peu anonyme, dans L'amour est aveugle, une espèce d'émission de télé-réalité de rencontres où les gens se touchent, mais ne se voient pas, se sentent, se parlent. Bon, ça, elle n'a pas fait un effet incroyable à l'époque, mais quand même, elle a un petit peu tapé dans l'œil de certains. Mais c'est surtout dans la quatrième saison des Anges de la télé-réalité, en 2012, qu'elle fait un buzz hallucinant avec sa fameuse phrase « Non mais allô », voilà, que tout le monde connaît.
Elle. Non mais allô quoi, allô, voilà. Je sais pas, vous me recevez ?
C'est grave, se dire qu'on peut devenir célèbre avec ces quatre mots. C'est assez révélateur de la vacuité, du vide de ces émissions quand même.
Exactement, moi-même j'ai beau avoir écrit un livre sur la question, j'ai pas totalement compris ce allô quoi. Voilà, je sais pas pourquoi il a été pris d'assaut, pourquoi il est passé en boucle à ce point-là. Je sais pas si elle l'a fait exprès, moi je pense absolument pas.
Enfin, quand on voit on dirait que c'est une vraie petite femme d'affaires quand même, Nabila, elle a su transformer ça, il y a des produits dérivés, elle lance des lignes. On a quand même l'impression que la fille est maligne et tout que peut-être ce non mais allô était finalement un peu provoqué, imaginé, peut-être même écrit.
Non, je pense que c'est un mélange d'intelligence, comme vous dites, en tout cas de malice et de spontanéité. C'est voilà, ce non mais allô, c'est de la spontanéité et c'est ce qui l'a servi un petit peu tout au long de sa courte carrière.
Elle a été conseillée après, entourée, Nabila ?
Oui, tout à fait. Elle a des gens autour d'elle qui la conseillent, mais c'est surtout quelqu'un de très indépendante qui fait ses choix par elle-même. Elle est conseillée, mais c'est toujours elle qui tranche. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait parfois des bêtises. C'est que c'est quelqu'un de spontané, d'intelligent, de plutôt cultivé, et en tout cas qui a une certaine culture. Et qui sait gérer son image.
On continue de vous raconter l'histoire de ces personnalités, de ces stars éphémères de la télé-réalité, celles qui ont réussi, celles qui ont été broyées par le système. Et puis on entendra tout à l'heure quelques-unes de leurs perles, il y en a pas mal.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Nous sommes avec Florian Anselm, journaliste qui publie la télé-réalité au confessionnal aux éditions du Moment. Je vous ai promis quelques phrases révélatrices du haut niveau de culture et de syntaxe des candidats de la télé-réalité. En voilà quelques-unes.
C'est ébouillonné. L'eau, elle ébullitionne. Elle bouillonne, elle bouillit. L'eau, elle bouille. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que l'eau, elle fait ? Elle frétille dans l'eau, quoi. Enfin, ça fait des buts.
Si j'aurais été célibataire.
Si j'avais, chouchou.
Non, en fait, c'est pour faire style. Non, si j'aurais été célibataire.
Si j'avais.
Ce qui fait mon charme, c'est ma générosité, ma douceur.
Ta classe, ton charisme ne m'ont pas laissé indifférente.
Ton charisme, Sidonie, ne me laisse pas indifférent.
C'est magnifique.
Il y en a quelques-unes dans votre livre, Florian Selme. Je suis têtu comme une moule. Ouais. Elle est quand même très bonne. Il y a aussi, c'est la gifle qui fait déborder le vase. J'aime beaucoup. Bon, il y en a plein. Et on se demande s'ils font pas exprès de temps en temps quand même pour chercher justement ce petit buzz, le fait d'être pris par les réseaux sociaux, etc., etc.
Si, bien sûr, probablement. C'est vrai que l'existence des réseaux sociaux, Twitter, Facebook et tout ça permet à une petite phrase de suivre un circuit absolument démentiel qui donne une célébrité en quelques minutes à quelqu'un qui n'est rien. Donc effectivement, une petite phrase peut faire beaucoup, elle peut faire rire, le tout n'est pas trop s'humilier, donc c'est là qu'il faut savoir doser, quoi.
C'est pas facile, est-ce qu'on y arriverait, nous, à monter des phrases pareilles, Thomas?
On va essayer.
Raconté l'histoire des stars déchues de la télé-réalité avec vous, Florian Anselme, mais il y a aussi les gagnants, comme Jennifer, par exemple. Voilà comment TF1 la présentait dans l'émission Star Academy.
À 18 ans, Jennifer a déjà un sacré tempérament. Débordante d'énergie et toujours enjouée, cette belle niçoise a décidé de prendre la vie du bon côté.
Je vis à 100 à l'heure, je bouge tout le temps, j'adore la vie, je l'aime, je la croque à pleines dents d'ailleurs.
Une jeune niçoise enjouée qui croque la vie à pleines dents, c'est quand même devenu une star de la chanson française, l'histoire est belle.
Elle est très belle, peut-être aussi parce que c'est la première, donc même si on a eu d'autres derrière, mais il y a eu l'effet de curiosité, elle a décroché une timbale qui était unique à cette époque-là. Et je ne suis pas persuadé que ce soit son incroyable talent qui fait qu'elle est encore aujourd'hui une grande chanteuse. Je pense que si elle était arrivée au bout de 4 saisons, elle aurait peut-être été comme d'autres gagnants.
Il y a beaucoup de stars qui sont sortis de la Star Academy.
Bien sûr.
Olivia Ruiz.
Bien sûr.
Il y a Nolwenn Leroy.
Élodie Frégé.
Oui, mais Jennifer est quand même sur une.
C'est les premières saisons, en fait. C'est intéressant de voir que les premières saisons nous ont presque plus marqué que les dernières. Grégory Le Marchal aussi, qui a évidemment marqué l'opinion. Je vous le trouve un peu dur sur le talent de chanteuse de Jennifer, mais ça, c'est un autre débat.
C'est une bonne chanteuse, mais. Ouais,
elle a beaucoup bossé, surtout. C'est une bosseuse.
Mais la Star Academy, ça marchait pas beaucoup au début, pourtant.
Non, parce que, enfin, selon Patrick Lelay, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas assez de chants. On voyait pas assez les candidats en action, en train de danser, en train de chanter. C'était le mix entre la télé-réalité et la chanson était mal fait. Donc lui, il a insisté pour que ce mix-là soit plus réussi.
Que ce soit un show musical également, c'est ça?
Exactement, voilà. Et c'est ce qui a été fait. Alexia Laroche-Joubert a mis les moyens pour que ça se fasse et ça a fonctionné quasiment immédiatement et des audiences folles ont été au rendez-vous très très vite.
Florian Selme, on a l'impression aujourd'hui que la télé-réalité, elle s'est un peu diffusée un peu partout, que les recettes polluent, parce que je suis pas fan, mais polluent un peu toute la société. Facebook, c'est pas une sorte de mini télé-réalité quotidienne pour chacun d'entre nous?
Si, tout à fait, ça me fait penser à un patron d'une grande boîte de nid parisienne que j'ai rencontré il y a quelques années, il y a 10 ans maintenant. Il m'a expliqué à l'époque que les gens ne supportaient plus l'anonymat. Dès qu'ils le pouvaient, ils essayaient de devenir célèbres de quelque façon que ce soit, et je pense que les réseaux sociaux, Facebook en tête, comme vous le citez, permettent ça, en tout cas font croire qu'ils permettent ça, donc moi personnellement non, mais beaucoup tombent dans cette espèce de course à la célébrité éphémère et parfois même un peu grotesque, et je pense que c'est la suite logique de la télé-réalité qu'on a connue au début des années 2000.
Elle s'essouffle, cette télé-réalité, quand même?
Oui, elle s'essouffle. Enfin, je pense qu'elle a besoin de se renouveler. Justement, elle fait face à Internet, aux réseaux sociaux, à plein de choses. Donc, il faut qu'elle se renouvelle. On a vu cette année que TF1 a déprogrammé des grosses machines. Enfin, déprogrammé. Les a passées sur NT1. Il s'agit de Secret Story et de Masterchef. Ces deux programmes phares, surtout Secret Story, la quotidienne pour Secret Story était sur TF1 jusqu'à présent. Et est désormais sur NT1, présentée par Christophe Beaugrand. Donc ça, c'est des signes forts qui prouvent que, il y a quand même quelque chose, il y a un petit grain de sable qui s'est mis dans la mécanique.
Ouais, et justement, on va parler tout à l'heure de ce que la télé-réalité peut proposer aussi dans d'autres pays que la France. Parfois, c'est bien pire. Vous découvrirez ça tout à l'heure, juste après.
Et puis tout à l'heure, on vous racontera l'histoire d'Andy Warhol, la star du pop art, l'inventeur du quart d'heure de célébrité dont on parle aujourd'hui, et de la sérigraphie aussi.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL. RTL.
L'amour, moi, plutôt, je suis un peu comme un bateau parce que, voilà, là, la mer, elle est agitée. C'est un peu ce qui se passe dans ma tête. Je suis complètement agité, je suis complètement perdu. Le bateau tangue dans tous les sens et je sais plus si je dois aller à droite, si je dois aller à gauche ou si je dois m'arrêter.
Jusqu'à 22h.
Non, mais attends, sans déconner, je te fais du pub parce que je fais le ménage et que je fais ton casse-dalle.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est très bien que chaque moment, tu me séduis tout le temps.
Non, mais allô, quoi.
On vous fait découvrir les coulisses de la télé-réalité grâce au journaliste Florian Anselme. Est-ce qu'il y a encore des tabous en matière de télé-réalité, Florian? Est-ce qu'on a tout montré, tout vu, tout dit?
Non, enfin, on s'en rapproche quand même. Cette année, c'est la première fois qu'on a eu une émission où les candidats apparaissaient totalement nus, même s'il y avait un floutage qui existait.
Mais... Donc, c'est un programme sur D8 qui s'appelle Adam Recherche Eve, c'est ça?
Tout à fait.
C'est quoi le concept?
Le concept, c'est des jeunes gens qui se rencontrent et qui se plaisent ou pas et qui doivent se
mettre à nu, comme selon.
Exactement,
comme
voilà,
la
discutent, qui jouent, qui mangent, qui chantent, qui dansent, qui s'amusent entre eux et qui doivent éventuellement rester en contact à la fin.
Faut préciser quand même que les sexes sont floutés.
Tout à fait. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le floutage des sexes prenait à peu près 300 heures par émission. Voilà.
Et ils ont eu un boulot sympa, les monteurs, j'imagine.
Ben voilà, c'est 300 heures par émission pour une
les truquistes,
les
d'ailleurs. Ouais.
Voilà. Chose qui n'était pas faite au Danemark, d'ailleurs, l'émission initiale où les sexes apparaissaient clairement.
Mmh. C'est un carton, cette émission, Adam Recherche Eve?
Non, pas du tout. Non, c'est un,
la première avait pas mal
la
marché.
La première
si
a fait 4,9% de part de marché, ce qui est correct. Mais si on enlève cette première, la moyenne totale de l'ensemble des émissions est de 2,8% de part de marché. C'est pas ridicule pour la chaîne et pour le pari, mais
c'est pas indispensable.
Non, voilà, c'est
non,
pas
on peut s'en passer, ça, on vous le confirme. D'une manière générale, vous avez regardé aussi ce qui se fait en matière de télé-réalité ailleurs sur la planète. La France est pas le pire pays du monde, Florian Anselme.
Non, loin de là, il y a eu des tas de télé-réalités absolument incroyables dans tous les pays. La France en général s'oppose à ce genre de format, notamment un personnage dont on parlait en antenne, un asiatique enfermé tout seul chez lui, qui doit relever des défis absolument incroyables aux yeux de tout son pays, qui est humilié, qui est nu. Ça, c'est quelque chose.
Oui, c'était une émission qui s'appelait Price Contest Life.
Tout à fait.
D'ailleurs, c'est presque l'ancêtre de la télé-réalité, puisque ça avait été lancé un an avant Big Brother. Ça avait démarré en 98 au Japon. Sauf que moi, j'ai découvert ça dans votre livre La télé-réalité au confessionnal. Florian Anselme, ce japonais, il ne savait pas que les images étaient diffusées en direct.
Voilà, exactement. C'est ce qui est le plus stupéfiant. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites dans le monde entier. En fait, en réalisant mon enquête, j'ai découvert que dans chaque pays, dans chaque continent, il y a une télé-réalité encore plus choquante que l'autre. Nous, je pense qu'aujourd'hui, on reste encore plutôt bien lotis. On a eu cette expérience Adam Recherche Eve qui était une expérience particulière, qui sera peut-être renouvelée. Mais on n'ira jamais autant dans le trash, ça, a priori, c'est une certitude.
Alors j'imagine que quand sur MTV, on découvre « I want a famous face », là, on est vraiment dans le trash. C'est quoi le concept de cette émission?
C'est de la chirurgie esthétique, c'est ça?
Exactement, voilà. En fait, c'est des candidats qui sont financés par la chaîne pour changer de corps, changer de visage.
Et ressembler à leur star préférée,
Et ressembler
c'est ça
à leur star préférée. Et à l'arrivée, celui qui gagne peut être défiguré, peut avoir un corps qui n'était pas le sien au départ et peut le payer très cher. Il y a eu des dérives assez graves dans ce domaine-là. Nous, chez nous, ça c'est quelque chose qui ne peut pas arriver.
Il y a aussi Born in the Wild. Alors là, on est encore aux États-Unis. Vu le titre, je crois comprendre quelle expérience est proposée aux candidats et aux candidates, ça veut dire naître dans la nature, c'est ça?
Exactement. Mais ça, si je puis me permettre, c'est pas vraiment une télé-réalité. Je pense que c'est plus de l'ordre de l'expérience. Moi, sur ce que j'ai, sur la façon dont ça a été pris dans les pays où ça a été diffusé, ça a été quelque chose de presque chirurgical, médicinal.
C'est quoi le concept? Parce que moi, je sais pas de quoi on parle là.
Le concept, en fait, c'est d'accoucher dans la nature sans aucune réelle assistance hospitalière, d'accoucher comme on accouchait il y a des siècles, je sais pas, ou comme on accouche encore peut-être aujourd'hui dans certains coins du monde reculé, mais voilà.
Mais ça avait provoqué beaucoup de critiques de la presse américaine quand elle est sortie, cette émission. C'est ce que vous racontez dans votre livre.
Tout à fait, ça avait provoqué beaucoup de critiques. Et en même temps, il y avait certaines associations, certains puristes qui s'étaient émus De ce retour aux sources qui était salué, qui était salué également. Mmh.
Les politiques aussi, tiens, sont peut-être eux aussi tombés dans la marmite de la télé-réalité. En tout cas, c'est ce que laissait entendre le président lui-même. Écoutez François Hollande, c'était lors de sa conférence de presse le 7 septembre dernier.
Est-ce que, comme Barack Obama, vous êtes prêt à participer à une émission de télé-réalité type aventure ou survie ?
Je ne savais pas qu'il y avait des émissions comme ça. J'ai l'impression de participer à cette émission depuis 2012.
On trouve l'humour de François Hollande, et c'est vrai que François Hollande ou même son prédécesseur Nicolas Sarkozy, Florian Anselme, on a eu un peu l'impression qu'ils étaient dans une émission de télé-réalité.
Malgré eux, non ?
Oui, sûrement, sûrement malgré eux. Ils se sont retrouvés à la une de la presse People. Leurs déboires conjugaux ont été diffusés, oui, même dans les journaux télévisés.
Bien sûr.
Est-ce que c'est pas une extension aussi de la télé-réalité, ça ?
Si, si, tout à fait. Mais je pense que là, en tout cas, la presse française a suivi le pas des tabloïds anglais ou de certains tabloïds allemands, comme le journal Bild, qui eux fonctionnent de cette façon-là avec leur politique depuis bien plus longtemps que nous. Nous, ça fait une dizaine d'années. Je pense que voilà, le chassé-croisé Sarko, Cécilia, Carla a passionné les Français, a passionné la presse People. Pareil entre François Hollande et Julie Gayet, c'est quelque chose qui a profondément ému, amusé, choqué un petit peu tout le monde.
Et fait vendre, les politiques, ça fait vendre ?
Bien sûr, oui, ça fait vendre. Oui, ça fait vendre une avec Julie Gayet qui dit qu'elle est la fiancée du président, comme l'a fait le journal France Dimanche l'année dernière, et quelque chose qui fonctionne, qui marche, voilà. Donc
et qui désacralise complètement la politique accessoirement.
Mais qui n'est plus sacralisée. De toute façon, ils tombent dans un débat qui ne devrait pas être le leur. Donc après, qui ne s'étonne pas d'être à la une de journaux qu'ils ne respectent pas forcément.
C'est vrai qu'il y a pas mal de politiques qui ont joué la carte de leur vie personnelle.
Voilà, c'est des gens qui sont d'une intelligence rare. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font, et quand ils se retrouvent à la une de ces journaux-là, je pense qu'ils s'y attendaient.
Merci beaucoup Florian Anselme. Votre livre La télé-réalité au confessionnal est publié aux éditions du Moment.
Vous écoutez RTL.